RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, on a trois GG qui sont Joël Dagosséry, coach de vie. Nous sommes avec le professeur d'économie Thomas Porcher et Étienne Yebi, qui est éducateur. Dominique Sopo, le président d'SOS Racisme, sera avec nous tout à l'heure pour reparler de cette enquête, ce testing qui a été fait sur des plages privées de la Côte d'Azur, avec trois couples qui ont demandé à entrer pour passer la journée pour louer des matelas. Le couple noir a été refusé, le couple maghrébin a été refusé, le couple blanc a été accepté. Les trois sont arrivés dans la foulée. Les plages s'en défendent. Quelle suite judiciaire SOS Racisme veut donner à cette histoire? Dominique Sopo nous en parlera. Puis on reviendra avec lui sur les débats du moment, l'affaire de l'imam Iqiyoussen. On a aussi le débat sur le droit de vote des étrangers non européens qui sera dans le projet de loi peut-être, ou dans tous les cas dans le grand débat sur l'immigration à la rentrée. Dominique Sopo tout à l'heure avec nous à midi moins 25. Donc en attendant, voici le GG, c'était match.
RMC
GG, c'était match.
Dans ce GG 7 et match, pardon, on va reparler de ce qui se passe dans le département de l'Ain où la sécheresse est particulièrement forte. Et on a le maire d'une localité qui s'appelle Arbois-en-Bugey qui a décidé de prendre une mesure radicale. 8h30, 11h, 14h, 19h, pas d'eau. On coupe le robinet. Et le maire s'explique.
Nous avons trois sources. Sur les trois, il y en a une déjà tarie. Et aujourd'hui, les deux autres, une est à 50%, l'autre doit être à peu près à 60% de son débit. C'est une décision drastique qui ne se fait pas de gaieté de cœur. Il faut passer le cap. Il nous faut passer le cap. Il va falloir changer nos habitudes. Il va nous falloir revoir dans nos maisons individuelles certaines choses. Il faut absolument y arriver.
Voilà, et donc on va faire un débat avec vous, avec le pour, le contre, ceux qui disent que oui, le maire a raison, non, il a tort. On a Joël Dagosséry qui dit « Il a tort, elle se retrouve seule contre tous, seule contre le reste du monde. » Le reste du monde étant composé de Thomas Porcher et Étienne Liebig. Pour Étienne, le maire a raison, c'est à toi à donner aussi les arguments. Une minute chrono, c'est parti, Étienne.
Écoute, je suis peut-être d'une très vieille école, mais je reste absolument persuadé, et c'est ma façon de penser, que l'intérêt collectif passe avant les intérêts individuels. Ce qu'on appelle par exemple l'écologie punitive ou tout ça, c'est-à-dire cette façon de sacrifier un petit peu de son confort personnel pour le bien collectif, me paraît être une très bonne chose. Une très bonne chose d'abord pour le bien collectif, mais aussi une très bonne chose pour l'appartenance à un pays, pour l'appartenance à un groupe humain. Et effectivement, je pense que... Et le rêve aurait évidemment été que ce maire dise, eh ben écoutez, entre 9h et 11h, vous ne prenez pas d'eau, et entre 14h30 et 19h, vous ne prenez pas d'eau. Le rêve aurait été que ça se passe de cette façon-là. Mais on voit bien que c'est très, très difficile que les gens adhèrent et acceptent des sacrifices individuels quand on leur dit, bah faut pas remplir vos piscines. J'ai entendu l'autre jour qu'on a vu en Corse, par exemple, la nuit, les consommations d'eau devenir complètement folles parce qu'en fait les gens remplissent leur piscine la nuit. C'est-à-dire que en fait le sens du collectif est compliqué chez nous et qu'on est obligé de prendre
des mesures drastiques.
On est devenu tellement individualiste dans notre façon de penser que dès qu'on touche un tout petit peu à notre confort, on crie à l'écologie punitive par exemple. Et bon, et donc on en est là. Donc oui, et on y passera tous. Hein. Je veux dire, ce qui est en train de se passer là-bas, on y arrivera tous.
Joël.
Moi, je suis d'accord avec toi sur l'intérêt collectif, mais je crois au contraire que ce genre de mesure vient abîmer l'intérêt collectif, ou en tout cas, je veux dire, la responsabilisation de l'individu. Je crois que c'est justement à cause de cette façon de procéder que les gens sont irresponsables, parce qu'ils comptent sur le fait qu'un décideur, tout d'un coup, va régler la situation, donc par miracle. Donc là, le maire, sa décision, ça a été de couper l'eau, ou pourquoi pas une autre solution. Mais je crois que les gens peuvent adhérer. Et je ne sais pas, j'ai cherché l'information, mais je l'ai pas trouvé. Je ne sais pas si ce que le maire nous explique là, il a bien en fait expliqué à sa population en fait que nous avons trois sources et qu'il y en a une qui est déjà à plat et que nous devons faire attention. Alors s'il vous plaît, n'ouvrez pas les robinets entre 9h, comme le disait Étienne, entre 9h et 13h par exemple, ou des choses comme ça. Je ne sais pas si ce travail a été fait, et du coup c'est pour ça que je me suis mise dans le non, parce que au lieu d'une mesure d'économie, moi j'ai bien peur que ça devienne ça passe pour une mesure de rétorsion. Mmh. Et aussi que les gens se disent on peut ouvrir le robinet jusqu'à 8h30, alors on va prendre nos jerrycans, j'en sais rien, et puis on va remplir à outrance, comme ça on sera tranquille. Et
je préférais la pédagogie,
franchement, toujours l'explication. Toujours, et même si la pédagogie générale ne fonctionne pas, moi je crois aussi à l'affect. Et je crois que justement, si un maire vient, c'est une petite commune, c'est pas non plus, c'est pas Paris. Donc si un maire vient te dire, on a que trois sources ici, et il y en a une qui est à plat. Donc faites attention, sinon les deux c'est fini. Si un maire fait ça, et même si on se donne la capacité de, bon là je vais un peu loin parce que je suis dans la technologie, mais peut-être d'avoir accès toi-même à ces informations-là de vérification, je crois qu'il y a un travail de fond à faire qui va être beaucoup plus, je pense, pérenne que ce genre de mesure qui vient infantiliser le citoyen et je pense ne pas du tout lui permettre de prendre en mesure la gravité de la situation.
Thomas Porcher.
Bah, maintenant que j'ai les deux explications, je vais être un peu entre les deux. Non mais ce qui est... On est la première chose.
De toute façon, on se rend bien compte d'une chose, c'est que les enfants gâtés de l'eau que nous avons été, peut-être que le temps est en train, de se terminer. Parce que comme disait Joël, en septembre ou en octobre, si jamais il se met à pleuvoir, tu vois, les pluies d'automne, on se dira, c'est bon, c'est reparti comme avant, quoi.
Non mais le comportement a quand même beaucoup évolué. Déjà maintenant, vous avez des cours à l'école de développement durable, où on vous apprend, même si parfois c'est un peu ridicule, parce qu'effectivement, on vous apprend à bien... faire attention à votre robinet qui goûte, et puis à côté il y a des gens qui remplissent des piscines, donc il y a du deux poids deux mesures. Mais la réalité, quand je vois ça, pourquoi j'étais pour, parce qu'effectivement il y a des réserves qui s'épuisent, et là il va falloir gérer cet épuisement des réserves. Et ce que fait le maire, c'est que voilà, il impose des formes de pénurie pour mieux gérer sur la longueur ces réserves, ce qui paraît finalement logique et qui pourrait avoir lieu pour d'autres réserves, même des réserves énergétiques de pétrole et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose que je trouvais logique. Mais après, rien ne nous assure que cette façon de gérer les réserves soit efficace, comme le dit Joël. Parce qu'il peut y avoir des phénomènes de rattrapage où des gens vont surconsommer au moment où c'est permis pour remplir, faire des réserves ou remplir leur piscine, comme l'a dit Étienne. Donc on n'est pas sûr que ce soit efficace. Mais en même temps, il va falloir s'habituer à ce type de choses, parce qu'on va rentrer vraiment dans cette économie, comme j'ai dit, je l'ai répété beaucoup de fois ce matin, de pénurie. Et donc là, comment on va faire? On va pas pouvoir dire aux gens, faut continuer, ou dire aux gens, faites un peu attention, parce que visiblement ça ne suffit pas. Donc il va falloir imposer des restrictions.
Tu sais, moi j'ai été, je pense que je suis pas le seul, je suis un intermittent, extrêmement choqué par ce qui s'est passé en Ukraine, en fait. Au début de la guerre en Ukraine, par l'invasion russe. Et la façon dont immédiatement, très vite, la population ukrainienne, que l'on n'imaginait pas aussi proche de sa nation, aussi ce sentiment d'appartenir à une nation différente de la nation russe, comment ils ont accepté immédiatement le sacrifice. C'est-à-dire, je trouve que parce que nous avons été des enfants gâtés, pas que de l'eau, nous avons été des enfants gâtés de tout.
Oui.
Et effectivement,
de la terre,
on a une chance exceptionnelle, tempérée, etc., etc. Aujourd'hui, il y a un virage qui s'opère, pas seulement sur le plan. On a parlé tout à l'heure de la place de la France dans le monde qui change aussi, mais et effectivement écologique, etc. Et je pense que nous allons avoir une génération de transition, et la prochaine génération arrivant aura conscience de tout ça, sera plus facile. Mais c'est incroyable quand même quand tu donnes un message comme celui-là et que des gens t'envoient « je suis au bord de ma piscine, connard, et je t'emmerde ». Tu vois, il y a quelque chose comme ça de la réaction un peu qu'on croit est une réaction du Gaulois réfractaire. Moi, je vous emmerde. Moi, j'ai ma piscine et je bouffe ma bidoche et je t'emmerde ça parce que tu veux me priver et je me priverai. C'est tellement infantile. C'est tellement bêta. Et en même temps, les gens ont l'impression d'être dans une forme de résistance. Mais la résistance, c'est l'inverse de ça. Je rappelle quand même que la résistance pendant la guerre, c'était l'inverse de ça. Donc, faut arrêter quand même de se positionner de cette façon-là, où dès qu'on touche à ton confort personnel, et je rappelle aussi aux gens
Là, c'est pas un confort personnel.
C'est un confort.
Non, l'eau, c'est pas un confort personnel, c'est un bien.
Oui, donc, mais là, tu dois sacrifier des trucs.
Provisoirement. Pour le moment, provisoirement. Mais là, il nous explique qu'il y a une source qui est à sec et que le niveau baisse sur les autres. on coupe le robinet pour les économiser. Mais il pleut pas. Sa solution, elle n'est pas pérenne. Les nappes phréatiques ne se remplissent pas. Donc, si tu veux, il y a un moment ou un autre. Jusqu'à quand? Les habitants disent, monsieur le maire. Bah, jusqu'à ce qu'il pleuve, tu sais très bien que s'il pleut, il faudra qu'il y ait suffisamment de pluie pour refaire les nappes phréatiques. Donc, ça va pas se faire comme ça.
Ça, les nappes phréatiques, c'est pas un truc qu'on va décider, hein.
Bah, c'est ce que je te dis. Donc, si tu veux, il y a un moment où les habitants vont quand même dire au maire, monsieur le maire, on peut rouvrir, on fait quoi? C'est jusqu'à quand? Tu vois, donc, là, c'est une solution d'urgence, mais qui n'est pas viable dans le temps, de toutes les manières.
Excuse-moi, quand on dit qu'il va y avoir un changement, ça veut dire qu'il y a des régions, comme dans tous les pays du monde, comme en Australie, où il y a des régions qui se sont vidées de leurs habitants. Je veux dire que là où il y avait des villes entières, parce qu'il y a eu la sécheresse et parce qu'il y a eu la désertification partout dans le monde, ça s'est vidé, à commencer par l'Arizona. Et on a des endroits qui se sont vidés littéralement de leurs habitants, et qui sont devenus des endroits désertiques. Ça existe depuis toujours dans le monde. C'est pas quelque chose de nouveau. Se pourrait très bien que des régions...
Mais ce n'est pas des endroits qui se sont aussi repeuplés.
Mais bien sûr que si. On voit bien que le Nord va se repeupler, c'est clair.
Les restrictions sur l'eau, il y a beaucoup de pays qui ont été confrontés. Israël, depuis longtemps, a été confronté, a mis des restrictions sur l'eau. Nous, on n'a pas été habitués à ça en France.
Oui, parce que c'est Israël est dans une région où il a fallu faire ces restrictions.
Nous, on n'a pas eu l'habitude, mais vraiment, je pense qu'on va, dans un avenir pas si lointain, on va être forcé d'avoir un certain nombre de restrictions. Alors, peut-être pas aussi radical que ce qu'a fait ce maire-là, mais le lavage de voitures, les piscines, toute l'eau, en fait, qui est jugée, on va dire, pas utile aux vivants, c'est-à-dire à nous, aux bêtes, etc., il va y avoir des économies à faire. C'est obligatoire.
Est-ce qu'on ne peut pas redonner un petit peu de pouvoir, entre guillemets, c'est-à-dire le pouvoir de bien contrôler sa propre consommation? La dernière fois, on en parlait. Tu n'as toujours pas, pour beaucoup en tout cas d'habitants, tu ne sais pas toujours ce que tu consommes réellement. Est-ce qu'on ne peut pas redonner de l'information aux gens? Est-ce qu'on peut leur redonner de la... Avant d'aller vers la punition, pour moi, ça reste une punition. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas accès à l'information avant. Si on avait accès à une information sur ma réelle consommation d'eau, comment est-ce que je peux la réduire? Voilà, tout ça, on a besoin d'information.
Joël, c'est vrai, par exemple, aujourd'hui, on voit, il y a pas mal d'agriculteurs qui passe au sorgho, par exemple, qui abandonne le maïs et qui passe au sorgho.
Rappelons que le maïs, c'était pas une culture française. Non,
c'est pas une culture française.
Le maïs, on s'y est mis parce que c'est devenu rentable. Avant, on cultivait pas le maïs en France.
Non, mais c'est tout de l'importation, y compris la pomme de terre. Donc, on passe au sorgho parce qu'effectivement, le sorgho consomme beaucoup moins d'eau. Il est moins rentable aussi par rapport à la quantité récoltée que le maïs. Mais on voit bien qu'il y a une façon de penser qui est en train d'évoluer. Là, en ce moment, il y a 180 paysans qui passent au sorgho, mais il y en aura peut-être 2000, 3000, 5000, 20000 dans les années qui viennent. Parce que, donc c'est ça ce qui compte en réalité, c'est qu'en ce moment, on est en train d'allumer une petite mèche. On sait bien qu'il va y avoir des résistances, on sait bien, mais on sent bien aussi qu'il y a un mouvement de fond, tu vois.
Oui, mais ce que vous voulez, c'est que tout s'arrête, tout stoppe pour tout le monde. Moi, je crois pas. Par exemple, on tape sur les gens qui ont des piscines. Mais chacun, il faut regarder ce que chacun peut économiser de son côté. T'as peut-être quelqu'un qui peut pas du tout faire l'impasse sur sa piscine, mais qui peut faire l'impasse sur beaucoup d'autres choses. Et il faut arrêter de focaliser sur, oui, il remplit sa piscine, il a sa piscine, etc.
Souvent, c'est quand même cumulatif, hein.
Non,
t'as la piscine, t'as le voyage.
Quand on dit pendant 3 semaines. Tu vois, c'est pas la question de pas avoir de piscine. Les gens ont raison d'avoir une piscine. La France est le pays où il y a le plus de piscines dans le monde. C'est une piscine pour 27 habitants.
C'est provisoire, tu t'en prends.
On dit juste là cet été parce que la France est en danger. On vous demande, tu vois, c'est pas non plus la guerre où on a demandé aux gens.
Sauf que le maire, c'est pas un particulier. Sauf que le maire, c'est pas un particulier que t'ailles sanctionner le particulier qui le soir en loose day refait le niveau de sa piscine parce qu'il a fait très chaud, que ça s'évapore depuis plusieurs semaines. Et encore, j'y crois pas trop parce que en général, l'eau des piscines, ça bouge pas, sauf si c'est des petites piscines hors sol dans lesquelles tu as peu de quantité d'eau, et là t'es obligé normalement de la changer. Et encore, normalement, quand tu remplis ta piscine et que tu la traites bien, t'as pas besoin de renouveler l'eau. Mais pourquoi pas, tu vas sanctionner le mec en loose day qui a lavé sa bagnole à 23h ou qui a arrosé son jardin alors qu'il doit pas. Mais le maire, lui, il est en charge de l'intérêt de l'ensemble des citoyens. Est-ce qu'il a parlé, même si c'est une petite commune, à tout le monde, en sachant qu'est-ce que ça a comme impact de couper entre telle heure et telle heure? Tu vois, donc ça c'est important. Et quelle est la solution pérenne à la rentrée, monsieur le maire? On fait quoi quand on va rouvrir le robinet? Ça, c'est important de le savoir, parce que lui, il gère l'intérêt collectif. Il est pas là pour pour faire de la punition. C'est comme aujourd'hui le maire de Colmar qui demande à l'ensemble des habitants de venir arroser les fleurs dans les jardins publics parce qu'il a pas le droit. Alors que du côté de l'Alsace et de cette région de France, t'as des milliards de mètres cubes de réserves d'eau. Donc c'est pas logique. Tu peux pas traiter de la même manière, si tu veux, tout le monde aujourd'hui. Un maire ne peut pas décider tout seul pour l'ensemble de ses concitoyens. Les gens ne sont pas logés à la même enseigne, ne font pas la même consommation d'eau les uns et les autres. Donc le débat est lancé. On va continuer la discussion avec vous, avec Marc qui nous appelle de l'Hérault, avec Romuald qui est du côté du Calvados, et on regarde où on en est dans la consultation. Est-ce que ce maire a raison de fermer le robinet pendant un moment donné? Non, c'est Joël qui l'emporte, seul contre le reste du monde.
Et c'est pourtant, normal.
Ils sont deux fois le plus bon nombreux sens. Que toi. Hein. T'as vu ça? 68, 32.
Le bon sens, c'est l'envie de se désaltérer aussi.
Ça veut dire que...
Je suis pas étonné du tout.
Oui, on n'est pas prêt à
faire un sacrifice.
À l'interdiction et à la punition collective aujourd'hui.
Pour le bien collectif.
Non, allez, on continue
la discussion dans les GG. À tout de suite.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal.
Olivier Truchot.
On continue notre discussion, notre débat, notre GG 7 et match avec Joël seul face au reste du monde.
Tout à fait.
Face à Thomas Porcher et Etienne
Yebi. Et je bats tout le monde entier. Hein.
Joël Dagosséry qui tient tête, ce maire qui décide de couper l'eau de son village pour lutter contre la sécheresse. Parce qu'il dit. Il se dit, on peut pas faire autrement. Aujourd'hui, il faut se responsabiliser. Il faut passer par des mesures radicales. Et donc, il ferme l'eau entre 8h30 et 11h, entre 14h et 19h. On est du côté d'Arbois-en-Bugey. C'est dans l'Ain. Et c'est Marc qui veut nous en parler. Marc Delhérault, bonjour.
Oui, allô, bonjour.
Qu'est-ce que vous en dites, Marc? Vous êtes dans l'équipe oui, dans l'équipe non? Il a raison, il a tort, le maire, dites-moi.
Je suis dans l'équipe non, totalement, parce que bon, déjà, je suis plombier.
Oui.
Quand vous coupez de l'eau aux particuliers, à un moment, ils vont continuer à tirer de l'eau obligatoirement. Et donc, vous allez avoir un problème sur les chauffe-eau électriques, parce que vous allez faire rentrer de l'eau dedans, vous allez faire rouiller les cuves prématurément. En plus de ça, aux horaires où ils coupent, si vous prenez les personnes qui travaillent en 3-8, le gars qui rentre à 14h du boulot et qui a bossé, il arrive chez lui, il va pas pouvoir se doucher. Moi, je vis avec ma belle-mère qui a 88 ans.
Vous vous entendez bien alors, ça va?
Comment?
Vous vous entendez bien avec elle, parce que vivre avec sa belle-mère, c'est pas commun hein, quand même, hein. C'est pas courant, hein, Marc.
Non, je vis avec ma femme et ma belle-mère.
Ah bon, d'accord. Ah,
oui. Les beaux-parents, les parents et les beaux-parents, c'est normal qu'ils soient à la maison. Ça, c'est quelque chose qu'il faut arrêter de les mettre dans des mouroirs à la con. Pardon, excusez-moi. Mais non, ça c'est. Et par contre, elle ne supporte pas de boire de l'eau très très fraîche. Donc elle vient toujours prendre son verre d'eau au robinet. Mm-hmm. Quand elle a envie de boire. Parce qu'on a la chance qu'elle n'oublie pas de boire. Et donc, si elle arrive et qu'il n'y a plus d'eau, on fait comment? Je veux dire, tout à l'heure, vous parliez des piscines. On disait oui, les gens, ils n'ont pas besoin de remplir la piscine parce que si, alors une piscine, c'était Alain Marchal qui disait ça tout à l'heure. Une piscine, quand vous avez un peu de vent et un peu de chaleur, sur une piscine qui va faire à peu près 50 mètres cubes, vous allez perdre un centimètre d'eau sur toute la hauteur.
Mmh.
Donc c'est.
Par jour?
Par jour. Et après, si vous continuez à descendre en dessous de ça, donc. Quand les skimmers ils feront plus leur boulot, vous allez être obligé de traiter l'eau à outrance et voire même de la changer.
Ouais.
Donc il y a des impératifs. Après, on est en train de nous emmerder avec ça en France, de dire oui, l'eau. Mais vous savez, en Italie, ils ont des usines de désalinisation, ce qui marche sur les grands paquebots et tout. Et pourquoi nous on attend que quand vraiment la France sera dans la merde et qu'on n'aura plus de flotte, on va nous dire, bah ça y est, on va faire. Alors,
c'est un choix. Attendez juste, Marc, le plombier que vous êtes, vous dites que les coupures d'eau, c'est pas bon, mais même là, c'est le professionnel qui regarde. Marc?
Oui.
Oui, allez-y, vous répondez à ma question. Du point de vue technique et professionnel, vous qui êtes plombier, couper l'eau et rouvrir de temps en temps, c'est pas bon, faut pas faire.
Non, c'est pas bon. C'est pas bon parce que déjà vous allez insuffler de l'air dans les chauffe-eau électriques. Il y a des personnes, parce que vous savez, en fonction du comment de l'opérateur EDF électrique où c'est que vous êtes, vous avez des heures creuses à certaines périodes. Et il y a des gens qui ont programmé leur machine à laver qui va tourner de 14h à 15h. Voilà. Et ben quand il va mettre sa machine en route, il aura pas de flotte. Voilà. Je veux dire, c'est à un moment il faut.
Mais là vous apportez les questions, vous apportez la question technique et c'est.
Bah, elle est importante.
Et c'est très bien,
technique.
C'est très important. Mais néanmoins, est-ce que vous pensez que en temps de, j'ose pas dire le mot de guerre, encore que le mot de guerre a été utilisé pour le oui, Covid, alors pourquoi pas? Est-ce que vous pensez pas quand même que quand on fait partie, quand on est citoyen, j'utiliserai le mot citoyen, oui. On doit pas à un moment sacrifier un certain nombre de conforts personnels au bien collectif? Vous pensez pas que c'est la base de la morale d'un pays?
Non, parce que la base de la morale de quoi? Vous allez, on vit pas tous de la même façon. Moi ici, alors
dans l'Hérault,
dans l'Hérault, là je suis, je loue une maison où on a un forage. On a un forage. La nappe phréatique ne peut pas se tarir parce que le propriétaire chez qui je suis a une grosse exploitation qui fait à peu près, qui doit faire, je sais pas, 200 hectares tout autour de la maison et qui a l'eau du Baronne et qui arrose pour les animaux, enfin pour tout, pour ses cultures. Et cette eau, elle part obligatoirement dans les nappes phréatiques. Donc ça dépend des endroits où on est. Mais d'accord. Après, il faut penser aussi aux gens qui vivent normalement. Et moi, si demain je rentre du boulot, bon, là c'est pas mon cas, mais je veux dire le gars qui va rentrer du 3-8, qui fait les 3-8 et qui rentre à 4h et qui se retrouve, qui arrive chez lui, qui a pas la douche pour se laver, ben moi à sa place, je vais à la mairie.
Bah, vous avez remarqué, ouais, vous gueulez, mais vous avez remarqué que c'est coupé entre 8h30 et 11h, entre 14h et 19h, ce qui veut dire que c'est le matin quand on a besoin, quand on a besoin de l'eau, elle est là, et quand on en a besoin, le soir aussi, elle est là, quoi, Marc. Attendez, Marc, on va écouter l'argument de Romuald aussi qui nous appelle du Calvados. Bonjour, Romuald.
Oui, bonjour.
Vous avez vu, Marc, il dit si jamais on fait ça chez moi, si la mairie fait ça, je vais gueuler. Et vous, est-ce que vous êtes pour ou contre cette mesure?
Ah, moi, je suis plutôt pour.
Pourquoi?
Alors, déjà, pour la première fois depuis 8 ans, je suis d'accord avec Étienne. Donc, il faut quand même le noter. Je vais le marquer sur le calendrier. Alors oui, effectivement, malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que l'eau est devenue un liquide précieux. Effectivement, on a vécu dans l'abondance et on a vécu comme un pays riche, où il suffisait juste d'ouvrir le robinet pour que l'eau coule à flot. Et aujourd'hui, quand on demande des restrictions, alors l'exemple que je viens juste d'entendre est typique de ce que dénonce Étienne Yelig. Ça veut dire que vous vous rendez compte des exemples qu'il a donné, le monsieur. La piscine qui diminue d'un centimètre. Mais franchement, est-ce que franchement c'est pas un problème de riche? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est pas un problème d'enfant gâté? Mmh. Demain, le risque, il est plus à 10 ans comme le GIEC l'avait signalé. Hein. Aujourd'hui, on est à 10 ans en avance par rapport aux pessimistes, les prévisions les plus pessimistes du GIEC. Demain, l'eau sera vraiment une denrée rare. Ça veut dire que demain, ce que fait aujourd'hui le maire, et tous les maires le feront, mais pas de 9h à midi et de 14h à 19h, ils le feront 24h sur 24, parce qu'on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Donc aujourd'hui, malheureusement, on vit dans un monde d'égoïstes. Quand je vois qu'il y a encore des gens qui nettoient leur voiture au carwash, qui continuent de nettoyer leur voiture, alors qu'aujourd'hui, on sait que l'eau est devenue un bien qui est devenu rare.
Ça, vous avez raison, c'est paradoxal. Il y a les lavages de voitures les automatiques, on peut y aller, mais vous n'avez pas le droit de laver votre bagnole chez vous.
Hein.
Ouais, certains, ils ont fermé, mais pas partout.
Partout, non, parce que c'est... alors moi justement, je vis sur le département où Madame Borne est élue députée.
Donc
Calvados, donc dans sa circonscription en plus. Et je me suis interrogé sur ça. Et effectivement, il y a des endroits où les carwash ont encore le droit d'être ouverts.
Et ça, je trouve que c'est une très bonne remarque parce que tu vois. Le fait qu'on va te dire oui, mais en Normandie, en ce moment, on manque pas de flotte. Oui, mais justement, est-ce que le fait d'appartenir à un pays, d'être français, justement, et le fait d'appartenir à un pays, ce serait pas justement qu'on soit tous traités un peu de la même manière, c'est-à-dire que nos amis du Sud sont en manque d'eau. ils sont obligés de faire un certain nombre de sacrifices de confort. Est-ce que c'est pas non plus au reste de la France d'assumer, tu vois, qu'on se retrouve pas dans un pays à l'italienne pendant un moment du temps de la Ligue du Nord où on disait bah ceux du Sud ils peuvent crever, nous dans le Nord on a tout ce qu'il faut, ils nous coûtent cher, c'est des cons, et parce que la distribution climatique est de relief.
Donc Romuald, vous êtes sur la ligne Étienne, c'est-à-dire vous êtes plutôt pour des mesures un peu punitives, contraignantes, quoi, en fait, c'est ça.
Mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis contre. Enfin, c'est l'éternel débat, est-ce qu'il faut de la pédagogie ou pas. Moi, je pense que la pédagogie, c'était bon il y a 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, on est dans l'urgence. Aujourd'hui, quand j'entends encore dire qu'il ne faut pas faire des barbecues dans les forêts, il ne faut pas jeter son mégot de cigarette, mais enfin, on le disait déjà il y a 15, 20 ans.
C'est vrai.
Il y a 15, 20 ans, on disait déjà que.
Alors, à la limite, mec... c'est même pas besoin de le dire. Faut,
mais,
voilà,
mais oui,
c'est.
Aujourd'hui, j'ai encore entendu hier sur un plateau de télévision un pompier qui disait qu'il fallait de la pédagogie. Mais non, aujourd'hui, celui qui ne sait pas qu'il faut pas jeter un mégot de cigarette dans la forêt, je suis désolé, mais c'est un crétin. Il n'y a pas d'autre mot. Et il ne mérite que la sanction. Il ne mérite que la sanction.
D'accord, on est d'accord.
Aujourd'hui, quand on nous dit qu'il ne faut pas laver sa voiture, tu lui dis, tu laves pas ta voiture chez toi, mais tu peux le faire au carwash. Non, je suis désolé, tu laves pas ta voiture, point barre. Point barre.
Non, mais,
c'est pas grave si ta voiture est sale. C'est pas très grave. Tu vas survivre.
Non mais il y a les actes comme qui sont complètement cons, comme jeter son mégot ou aller faire un barbecue en forêt. Enfin, ça te passerait même pas par la tête. Je sais pas qui fait ça. Et puis il y a des choses qui sont liées vraiment à notre mode de vie et à un changement des mentalités. Oui. Et ça, vous devez accepter. Je suis désolée que ça prenne du temps.
Bien sûr.
Le changement, ça prend du temps.
Bien sûr, ça prend du temps.
Et peut-être qu'il y a certaines personnes dans notre génération
avec de la punition et de la contrainte.
Qui ont une prise de conscience plus avancée que d'autres, d'accord. Mais pour avoir le résultat que vous voulez, peut-être que ce sera mes enfants, ma fille, elle a 12 ans, je vois bien que c'est elle qui me dit, attention ça, la viande, je n'ai pas beaucoup besoin, moi je suis là à tous les repas avec ma viande, enfin j'exagère un petit peu, mais c'est un peu ça, et elle, non... Tu sais, on n'a pas tant
Joël,
besoin de ça, etc.
A-t-on le temps d'attendre les changements de comportement?
Mais,
c'est ça la vraie question. Je veux dire, si on n'a pas... Enfin, si le changement de comportement, tout le monde rêverait d'un changement de comportement qui se ferait naturellement. Mais là, a-t-on le temps? Si on n'a pas le temps, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a un moment, la contrainte...
Donc il faut faire un tour de vis, il faut faire de la contrainte, quoi.
Bon, après, chacun y réagit à sa façon. Moi, c'est vrai que je supporte facilement la contrainte. Mais je pense que si les comportements ne changent pas assez rapidement, eh ben, on va devoir...
Ils sont déjà en train de changer.
Romuald, merci, Romuald. On va donner le mot de la fin à Frédéric, après Marc, du côté de l'Hérault, Romuald, dans le Calvados, on va aller dans le Loir-et-Cher. C'est Frédéric qui nous appelle de ce département. Bonjour, Frédéric.
Oui, bonjour les GG.
Mais ravi de vous avoir avec nous, Frédéric. Est-ce qu'il faut passer par la contrainte comme le fait ce maire? Il a raison, oui ou non?
Bah oui, totalement. Et même il devrait faire encore plus.
Parce qu'en
France, on est devenu un peuple individualiste et enfantin. Après, les Français gueulent tout le temps parce qu'on paye tout le temps, Mais si on fait pas des choses comme ça, tout le monde s'en fout. À côté de chez moi, j'en ai un qui a l'arrosage automatique tous les jours sur sa pelouse. Ah, sa pelouse, elle est bien verte. Il n'y a pas de problème. Les stations de lavage, comme en parlait le précédent auditeur. Et la même chose, ça m'a fait halluciner hier avant-hier, en allant faire l'essence. Les gens nettoient leur bagnole, la mienne qui est crade depuis je ne sais combien de temps, je la nettoie même pas.
Ouais.
On est devenu un peuple comme ça, d'individualistes, et chacun pour sa gueule. Et on en a rien à foutre du voisin, foutre de ce qui peut se passer demain. Et après, oui, il faudrait que tout le monde se prenne en charge, mais ça, on sait très bien que dans notre population actuellement, c'est impossible. C'est impossible, c'est tout le monde voit le bout de son nez et tout le monde n'en a rien à foutre.
Oui, mais
on devrait avoir, en tout cas dans ce petit village, il devrait avoir une information qui dit à partir de tant de mètres cubes, on coupe l'eau, etc. Il n'y a pas tout ça. Je suis désolée, non, on n'est pas individualiste, on n'est pas informé.
Il y a des gens qui ont des puits personnels également. Quoi taper dans ces gens-là? Il y a 3-4 voisins à côté de chez moi qui ont des puits personnels. Ils ont acheté leur maison avec un puits dans le jardin. Ça, c'est...
D'accord, c'est curieux parce que là, maintenant, vous voyez, ça devient de la jalousie. Ils ont acheté leur maison, il y avait un puits, ils ont un puits personnel. Et alors, moi, vous voyez, je préférais... Non, mais Frédéric, moi, je préférais entendre le gouvernement et les sociétés qui s'occupent de l'eau nous dire quel est le plan pour faire en sorte que les centaines de milliers de kilomètres carrés aujourd'hui de tuyaux qui fuient soient rénovés. Parce que là on perd des milliards de mètres cubes, Frédéric. Vous voyez? Plutôt que de me dire, le voisin, c'est un con. Comment?
Il n'a pas dit ça.
Non.
Il n'y a pas longtemps chez moi. J'ai perdu 800 mètres cubes.
Ben voilà. Moi, je préférais, vous voyez, que là-dessus.
Ça fait partie du truc, tu
oui,
vois.
Oui, mais si, n'empêche
si,
pas l'autre.
Oui, mais si tu veux, avant de commencer à jalouser celui qui a la piscine ou celui qui a le puits, mais l'eau, c'est un travail de l'État avec les sociétés. C'est ça, l'eau, aujourd'hui.
On peut parler des salinisations.
C'est pas de la jalousie. C'est comme un petit peu les paysans, vous parliez du maïs tout à l'heure. Si vous leur tapez pas un peu dessus, moi, en Eure-et-Loire, Loire-et-Cher, Indre-et-Loire. Mais les champs de maïs, il y en a partout, il y en a partout. Vous vous promenez, c'est des jets d'eau qui tournent à droite toute la journée.
C'est le plus gros consommateur de flotte, le maïs. C'était pas français et il y a eu aussi des primes qui ont été données pour planter du maïs.
Merci Frédéric d'avoir été vous aussi avec nous dans la discussion. Alors est-ce que le maire a raison de couper le robinet? On va voir si ça a bougé ou pas. Ouf. Ce n'est même plus une victoire, ouais. C'est un triomphe.
À deux contre un.
Le triomphe de l'égoïsme et de l'individualisme. 70%, c'est Joël qui a gagné face à ceux qui étaient deux fois plus nombreux qu'elle. Dans un instant, Dominique Sopo, président d'SOS Racisme, le débat sur l'immigration à la rentrée, le droit de vote des étrangers, et puis le testing fait par SOS Racisme des plages privées à Juan-les-Pins. Voilà ce qui va être au cœur de notre discussion.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules, c'est sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, Thomas Porcher, professeur d'économie, Joël Dagosiri qui vient de remporter un match triomphal, seul contre le reste du monde. La coach de vie, oui, 70% face à Étienne et Thomas. Étienne Liebig, éducateur, qui est avec nous aussi, éducateur en Seine-Saint-Denis. Et on accueille notre invité.
RMC, les Grandes Gueules.
Dominique Sopo, le président d'SOS Racisme, bonjour.
Bonjour.
Donc il y a eu ce testing organisé par des militants d'SOS Racisme sur les plages de la Côte d'Azur, à Juan-les-Pins. Des plages où se présentent trois couples, les uns après les autres, quasiment dans la foulée. Un couple noir, refusé, pas de matelas. Ils viennent louer un matelas, s'installer sur une plage privée. Un couple maghrébin, désolé, pas de matelas. Arrive un couple blanc. Ah, là, comme par hasard, il y a un matelas. C'est prouvé, c'est du racisme et la discrimination ce qu'on fait ces plages ou pas?
Bah, en tout cas, le testing montre qu'il y a une différence de traitement envers les personnes, puisque pour certaines personnes, les plages soi-disant sont pleines, pour d'autres, elles ne le sont pas. Donc on voit bien qu'il y a une différence de traitement, quel que soit d'ailleurs le mécanisme qui aboutit au fait que les gens aient été traités différemment, il y a bien le fait qu'il y a des gens qui sont dans une situation défavorisée.
Vous allez donner des suites judiciaires?
Oui, bien sûr, nous allons porter plainte auprès de la justice. Et nous allons par ailleurs aussi interpeller les préfectures, puisqu'on est sur des plages dites privées. Mais je rappelle quand même que les plages, c'est le domaine de l'État.
Oui.
Hein, c'est le domaine public de l'État. Et que ce sont des concessions.
Donc vous allez demander à les fermer?
Non, enfin, en tout cas, on va demander aux préfectures ce qu'elles comptent faire lorsque l'on constate que, manifestement, il y a une sélection de la clientèle qui est organisée. Et en tout cas, qu'il y a un manque de vigilance, à minima, de la part des responsables de ces concessions.
Ça veut dire que vous attendez une réaction immédiate de la préfecture, là?
Bah oui, bien sûr.
Mais qu'elle fasse quoi?
Ah ben, soit qu'elle qu'elle convoque, par exemple, les personnes auxquelles elle a donné des concessions, pour leur demander des explications, c'est quand même la moindre des choses. Soit de convoquer aussi les professionnels du secteur pour rappeler la loi. Faire en sorte peut-être de rappeler que dans notre pays, on ne peut pas sélectionner les clientèles sur toute une série de lieux dans lesquels on s'est habitué à constater de la sélection sans que cela n'entraîne de répression particulière, hein, parce qu'on a fait les plages privées, mais on a aussi fait, alors pas sur Juan-les-Pins Antibes, mais sur d'autres localités, notamment à Marseille, Aix-en-Provence, on a aussi fait des bars et des boîtes de nuit, où là aussi, on constate de la sélection. Je rappelle que c'est totalement illégal, qu'on n'a pas le droit de sélectionner la clientèle dans les lieux qui font appel au public dans notre pays, et que pour autant, de fait, on sait bien que ça se passe comme ça dans toute une série d'endroits. Bah, la préfecture est là aussi pour rappeler les lois.
Donc il y aurait des fermetures administratives ou des sanctions, ça vous choquerait pas?
Ah bah non, bien évidemment que ça ne me choquerait pas. D'ailleurs, les fermetures administratives, ça existe pour toute une série de situations.
Vous le souhaiteriez même?
Ah bah bien sûr, il y a déjà eu des fermetures administratives.
Donc ces plages mériteraient d'être fermées?
Ah, je ne dis pas non. Ces plages en particulier. Je dis que je suis
votre raisonnement et ce que vous attendez.
Je dis ce que j'attendais, soit, en tout cas une réaction de la préfecture, de convoquer, de demander des explications, et en fonction des explications données, de prendre des mesures, soit des obligations de formation, soit des fermetures, soit un rappel de la loi un peu ferme pour dire la prochaine fois ça se passera autrement, etc.
Parce que les plagistes disent on est en train de faire une bonne saison, donc on refuse une centaine de gens le midi, tout autant le soir. Parfois on a l'impression qu'il y a des matelas vides, c'est pas vrai. Il peut y avoir des appels en disant que les places se libèrent et ça peut se faire à quelques minutes d'intervalle. Puis il y a eu un autre. Qu'est-ce que vous pensez de ces arguments?
J'entends ces arguments. Ces arguments peuvent être tout à fait justes, qu'il y a, du mouvement. Je rappelle juste que nos testings se font avec des personnes qui se présentent sur un temps évidemment très resserré, parce que évidemment l'affluence, elle peut changer assez rapidement sur ces lieux. Et que le deuxième élément, c'est que j'entends bien tous ces arguments, mais quand on fait des testings, on constate quand même que c'est toujours sur les Noirs, les Arabes qui a un problème. C'est marrant, c'est jamais l'inverse. Donc, c'est bien qu'il y a peut-être une raison. La raison peut être d'ailleurs qu'on se décarcasse, si je puis dire, plus vis-à-vis de certains profils que d'autres, qu'on fait preuve d'une plus grande légèreté quand on reçoit certaines personnes que d'autres, qu'on se met plus en quatre pour certaines personnes que d'autres. Bon, voilà, il peut y avoir plein d'explications, mais en tout cas, ce que l'on constate, c'est qu'il y a un traitement différencié et qui tombe négativement toujours sur le même type de profil.
Et quand on est presque complet, on regarde aussi qui nous rapportera plus d'argent. C'est pas du racisme, c'est du business. Ça peut se comprendre.
Non, ça s'appelle de l'illégalité. Ça s'appelle de l'illégalité. Vous voyez, c'est typiquement, c'est marrant, hein. C'est typiquement des personnes qui en fait s'arrogent un droit qu'elles n'ont pas. En fait, non. Où est-il écrit dans la loi? On regarde qui va nous ramener plus d'argent, mais ça va pas la tête. Imaginez un peu. Vous allez dans un restaurant et on dit. Lui, il va pas rentrer parce que lui, on pense qu'il va prendre d'entrée ou de dessert, alors qu'il y a de la place. À dire, c'est normal. Non, par exemple, dans un restaurant, on ne l'accepterait pas. Et il faudrait qu'on l'accepte dans d'autres lieux. En fait, lorsqu'on a une concession, on s'engage à respecter la loi. Donc, en fait, ce ne sont pas les gérants qui font la loi. La loi, elle est faite au Parlement. La loi, elle dit des choses extrêmement simples et extrêmement claires. Et donc, la question du business, elle n'a ici rien à faire comme argumentation. La loi, ça se respecte. On est dans un état de droit.
Et Joël ?
Je crois que cette...
micro, s'il te plaît, parle plus fort.
Je crois que cette dernière raison est encore pire que tout. Le fait de dire que, en fait, on suppose en fait que le couple noir ou alors le couple arabe n'aurait pas d'argent et que le blanc nous rapporterait beaucoup plus. Je crois qu'il y a encore, mais je crois que ça c'est encore pire que tout. Il fallait même pas l'avancer. Là vraiment pour le coup, je demande la fermeture de ces plages parce que là c'est vraiment de la discrimination, c'est de l'assignation, c'est n'importe quoi. Et je crois que les testings que vous faites sont vraiment très 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 utiles. Alors c'est bizarre ce que je vais dire parce que je suis pas contente du résultat, mais en même temps je suis ravie. En fait, du résultat pour une raison. Parce que entre ces testings de SOS Racisme qui viennent nous rappeler qu'en fait, effectivement, il y a du racisme, il y a une pression sur les minorités qui leur dit que vous faites de la victimisation, vous racontez n'importe quoi, etc. Et donc, à force, on se pose des questions sur mais est-ce que vraiment j'ai subi du racisme? Est-ce que c'est pas moi qui suis qui fait un peu ma victime, etc. Et ces testings viennent replacer un peu, j'ai envie de dire, remettre les pendules à l'heure et dire non. Il y a du racisme, effectivement. Et tout ça vient mettre à jour des petits systèmes qu'on met en place, par exemple, entre les Noirs, de savoir. On a une cartographie dans la tête. Il faut savoir que moi, j'ai grandi avec une cartographie de savoir si tel endroit, on sait qu'il n'accepte pas les Noirs. Ceux-là, oui, on peut y aller, je sais que là, je peux rentrer. Et ça, on n'imagine même pas ce que c'est comme pression mentale de savoir que je peux pas me balader. Le territoire ne m'est pas ouvert comme à mes autres concitoyens blancs. C'est la réalité. Donc, je veux bien qu'on me raconte n'importe quoi, mais ces testings-là remettent les pendules à l'heure. Et donc, merci, monsieur Sopo, de continuer à tester ces établissements.
Thomas Porcher.
Quand on voit les vidéos, il n'y a rien à redire. Hein. C'est deux couples habillés de la même façon. Il n'y a aucune raison d'avoir une préférence, si ce n'est le racisme, hein, en fait. Et même le racisme, je pense, imposé de longue date dans la tête des gens pour choisir un couple plutôt qu'un autre. Et puis, il y a eu plusieurs affaires. Il y a eu l'affaire du Manco, où c'est ce restaurant à Paris, où c'était des jeunes filles très bien habillées. On a vu les vidéos qui sortent étrangères, qui vont à Paris, qui sortent et qui se font refouler. On comprend pas vraiment le motif. Donc, moi, je trouve ça bien que... Ça existe depuis toujours, ça. Je crois qu'SOS Racisme, il me semble aussi, c'est créé... ce qu'on racontait à Villetaneuse quand j'étais étudiant, c'est qu'il y avait des jeunes qui avaient eu leur leur Doug à l'époque qui était venu faire la fête à Enghien, et un avait été tué par un videur parce qu'il était, il avait la peau noire, et que SOS Racisme avait commencé comme ça. C'est ce qui se racontait. Je sais pas si c'est une urban légende, bah, ça... mais c'est ce qui se racontait. Voilà.
C'est partie des réalités de l'époque. Ouais,
c'est partie des réalités de l'époque. Et d'ailleurs, cet homme-là, son frère est devenu prof, il est connu. Enfin, cette histoire est vraie, hein, cette histoire est vraie. Après, je sais pas si c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui a toujours existé. Et il faut que ça cesse, quoi. C'est pas normal. Et je crois que même dans d'autres pays, comme le Royaume-Uni, les États-Unis, il y a beaucoup moins, j'ai l'impression, moi, de discrimination sur la couleur de peau. Il y a probablement discrimination sociale qu'il n'y a en France.
On verra quelle suite, donc, avec ces affaires des plages. Etienne Liebig.
Oui.
Micro.
C'est quoi un peu la position de SOS Racisme sur la question du vote des étrangers, par exemple, des étrangers extra-européens?
Cette proposition de loi de Sacha Houlié.
Sur les élections locales, là où on paye ses impôts.
Oui, oh bah nous, on a toujours été favorables au droit de vote des étrangers aux élections locales. On regrette d'ailleurs qu'en 2012, ça n'ait pas été mis en place lorsque François Hollande est arrivé au pouvoir, alors que ça faisait partie d'une des promesses, et que pour la première fois, puisque souvent on dit « Ah, ça fait 40 ans », mais en fait, pour la première fois, il y avait la possibilité institutionnelle de le mettre en œuvre, puisque le Sénat avait enfin voté la loi et donc ouvrait la voie à la réforme,
ça va passer, vous
à la
pensez
réforme
ou pas
constitutionnelle.
Gérard Darmanin dit qu'il était contre, le ministre de l'Intérieur.
Je ne tombe pas de ma chaise en l'apprenant, sans aucun doute. Mais je pense qu'on n'est pas forcément dans un contexte très favorable aujourd'hui quand on voit quand même les excitations très racistes, très de stigmatisation.
De qui?
Le ciblage des étrangers.
Qui les excitations racistes?
Je sais pas, Éric Zemmour, l'ambiance dans laquelle nous avons vécu une campagne présidentielle totalement, j'allais dire, singulière.
Ah, sur le plan de l'expression du racisme. Je pensais que vous parliez de Gérald Darmanin, du ministre de l'Intérieur.
Bah, Gérald Darmanin, de fait, dans ce contexte-là, a pris des positions récentes qui me semblent extrêmement problématique.
Lesquelles?
Sur le lien entre délinquance, étrangers, la question
des il y a des chiffres, il s'appuie aussi sur des chiffres. Les étrangers qui sont en prison, les agressions qu'il y a eu aussi du côté de la Guillotière à Lyon, c'est lui qui a donné les chiffres.
Hein. Oui, il a donné les chiffres, mais en fait, ces chiffres ne disent pas grand-chose, en réalité. Que disent les chiffres? Monsieur Darmanin dit, alors voilà, il y a 7% d'étrangers en France et ils commettent 19% des délits. D'abord, il y a 7% de personnes qui sont en situation permanente en France parmi les étrangers. Ça n'est pas 7% d'étrangers en France. Il y a des touristes, il y a des gens de passage. Donc déjà, on n'est pas du tout à 7% d'étrangers dans notre pays. Le deuxième élément, c'est que évidemment, cette comparaison est une comparaison totalement farfelue dans la mesure où il faut regarder quels sont les profils des populations. Par exemple, les étrangers, ce sont en général des classes beaucoup plus populaires. On sait que dans les classes populaires, la délinquance réprimée est plus forte, par exemple, elle est plus importante. Donc en fait, on balance des chiffres en disant, regardez, il y a un problème avec les étrangers. Et par ailleurs, je ferai remarquer que lorsque des personnes commettent des délits, eh bien, elles sont condamnées, qu'il y a un traitement égalitaire à avoir entre les gens, que l'on soit français ou étranger, lorsqu'on commet un délit, on est condamné. Voilà.
Bon. Tiens, puisqu'on parle de Gérald Darmanin, l'affaire de l'imam Iqbal Houssen, c'est de l'anti-musulman, à votre avis, ou pas? Ou c'est de l'acharnement anti-musulman?
Je trouve, en tout cas, je n'ai pas de sympathie pour l'imam Iqbal Houssen au regard de propos récurrents qu'il a pu avoir dans le passé. Bon, ceci étant, je ferai remarquer que Gérald Darmanin est né dans la même ville que moi, Valenciennes, que l'imam Iqbal Houssen est connu depuis très longtemps. Il est à Denain, c'est à 10 km à vol d'oiseau de Valenciennes, que M. Darmanin est maire de Tourcoing depuis de nombreuses années. C'est à 40 km à vol d'oiseau de Denain. Je m'étonne que M. Darmanin découvre ou semble découvrir aujourd'hui l'imam Iqbal Houssen. Et c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, on est dans un contexte où on prend des positions finalement d'opportunité pour répondre à une situation politique qui est la force du vote d'extrême droite, malheureusement, dans notre pays. Je ne pense pas qu'on fasse de la politique comme cela.
Il drague l'extrême droite avec cette affaire Iqbal Houssen, quoi, Gérald Darmanin.
Il l'a dit lui-même. Quand je reprends les positions qu'il a dites sur délinquants et étrangers, il a dit « Je prends en considération le fait que les Français, lors des élections présidentielles, ont voté pour l'extrême droite à un certain pourcentage. Et donc, il faut bien que j'entende ce qu'ils disent. Donc, c'est lui-même qui le dit d'une certaine façon, c'est pas moi. Et donc, j'entends ce que dit Gérald Darmanin. Mais je pense que lorsque l'on est dans des phases comme celle-là, il faut aussi savoir rappeler les principes de l'état de droit et de ne pas être dans une course à l'émotion où à la fin, d'ailleurs, on ne réfléchit plus. Puisque à la fin, c'est... Ben, si on met en cause la question de l'expulsion, ah donc, vous êtes pour l'imam Hussein, vous êtes pour les frères musulmans, vous êtes pour ces propos antisémites, etc. etc. C'est-à-dire, ça me fait penser à ce que faisait Nicolas Sarkozy il y a quelques années. D'ailleurs, M. Darmanin a été à bonne école. Il était quand même un admirateur, et toujours sans doute aujourd'hui, de Nicolas Sarkozy. C'était un peu l'ambiance de... peut-être la peine de mort pour les assassins d'enfants. Et si on disait, bah quand même, il y a un principe. Ah, vous êtes pour les assassins d'enfants. Mais enfin, arrêtons de plaisanter. Est-ce que l'on peut réfléchir, rappeler qu'il y a des principes et que ces principes, eh bien, en fait, on ne les bouscule pas constamment sous le coup de la vindicte publique.
Merci Dominique Sopo d'être passé par les GG, passez un bon week-end. Lundi 15 août, les grandes gueules sont là, en direct. Le retour de Barbara Lefebvre, Stéphane Manigold, le restaurateur, le cheminot Bruno Poncé et midi moins 25, le président de la SPA, Jacques-Charles Fontbonne.
Ils vont être copains avec Barbara.
Et parce que c'est toujours un record.
Ensemble, hein.
Ce week-end est un record en général d'abandon des animaux domestiques. Bon week-end et rendez-vous lundi 15 août en direct pour sur RMC Story.
RMC, 9h midi.
Les grandes gueules.